Radio Kapi. Oh, Kapi.
Présenté par Belinda Bossouma, voici le sommaire. Paralysie des activités ce vendredi à Kavimvira dans le sud Kivu. C'est à la suite de l'assassinat d'un jeune homme par des hommes armés bien identifiés. Des jeunes en colère exigent notamment les enquêtes sur ce cas d'assassinat qu'ils suspectent d'avoir été perpétré par des éléments incontrôlés de l'armée. En Ituri, libération cette semaine de 10 personnes enlevées par la milice Codeco il y a environ une semaine vers Café. Elles sont arrivées hier à Bunia grâce aux efforts des autorités militaires et coutumières locales sous la médiation de l'ONG FADEM. Occasion pour la société civile de l'Ituri d'inviter les groupes armés à respecter leur acte d'engagement. Et puis, l'invité de ce midi, Clovis Mouniré, coordonnateur provincial du programme PDDRCS. Il nous parle des deux projets financés par le Fonds de cohérence pour la stabilisation. C'est pour accompagner la réinsertion qui devrait impliquer plus de 1500 ex-combattants venus de Beni et de Lubero. Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part du sud Kivu. Les activités sont paralysées ce vendredi à Kavimvira, dans la partie nord de la ville d'Uvira. C'est après l'assassinat d'un jeune homme par des hommes armés bien identifiés. Des jeunes en colère ont barricadé les artères principales du rond-point Kavimvira. Ils exigent la relève de la nouvelle unité des FARDC déployée dans la zone et les enquêtes sur ce cas d'assassinat qu'ils suspectent d'avoir été perpétré par des éléments incontrôlés de l'armée. Fiston Ngoma, reportage.
Tous les témoignages recueillis auprès de membres de la famille de la victime par le maire ad intérim de la ville d'Uvira, qu'accompagnait le commandant de ville, des FRDC et de la police ainsi que le chef des quartiers de Kavimvira et les acteurs de la société civile font état d'hommes armés vêtus en treillis des FRDC dans l'attaque survenue ce jeudi vers 19h. Amoury Migomba Nodestin est coordonnateur de la dynamique Congo Puissance, un mouvement citoyen.
Aujourd'hui, nous sommes en train de manifester. Le bourreau était vraiment à moins de 10 mètres des militaires qui étaient en train de faire les patrouilles. Mais comment ces militaires n'ont pas su prendre ou arrêter ces gens-là? Comment ces bourreaux ont su disparaître dans la nature? Et c'est comme ça que nous sommes en train de comprendre que dans les militaires, il y a les gens qui sont en train de se comporter dans ce sens-là, de vouloir insécuriser jusqu'à la moelle épinière la population, alors qu'ils ont le devoir de défendre ou de protéger cette population-là à temps réel.
Le corps de la victime a été acheminé à la morgue de l'hôpital par la foule des jeunes agités. Le maire ad intérim de la ville, Kapenda Kifara Kiki, a promis à la famille éprouvée de prendre en charge toutes les charges liées aux funérailles. Aux dernières nouvelles, après le dépôt du corps à la morgue, les jeunes manifestants se sont fait accompagner par les forces de l'ordre pour enlever les barricades sur la route. D'Uvira, Fiston Ngoma Mayabala, Radio Kapi.
Je vous le disais en titre, dans la province de l'Ituri, 10 personnes, dont 6 femmes enlevées par la milice Codeco, sont libres depuis la soirée de mercredi après avoir passé près d'une semaine entre les mains de leurs ravisseurs. Ces personnes sont arrivées hier jeudi à Bunia grâce aux efforts des autorités militaires de la province, des chefs coutumiers sous la médiation de l'ONG FADEM. Une nouvelle saluée aujourd'hui par la coordination de la société civile de l'Ituri qui invite une nouvelle fois les groupes armés signataires de l'acte d'engagement de cesser des hostilités à respecter ainsi leurs paroles. Le point avec Jean-Claude Loki.
C'est dans la soirée de mercredi que les 10 otages, dont un nourrisson d'environ 5 mois, ont été relaxés, remis aux autorités militaires de la 32e région militaire des FRDC. Ils ont ensuite été acheminés à Bunia. Georgine Lové est la responsable de l'ONG FADEM, de l'organisation, a joué un rôle dans cette libération. Se dit heureuse de revoir ces personnes en vie.
Elle-même n'était pas sûre qu'ils vont survivre d'après ce qui s'est passé à Tadi. C'est ça ce que nous disons, les femmes sont souvent victimes, surtout dans les conflits des groupes. Alors nous, on a veillé pour que les pires ne puissent pas atteindre ces différentes femmes.
Pour sa part, le coordinateur de la société civile de l'Ituri salue les efforts de toutes les personnes qui ont contribué à ce dénouement heureux. Pour Dieudonné Lossa, les groupes armés doivent respecter l'engagement qu'ils ont pris de travailler au retour de la paix en Ituri.
Ce n'est pas parce qu'ils se rattrapent en état vivant qu'il faut les kidnapper encore ou kidnapper les autres et pour les garder pendant autant de jours et les retourner vivants. Ils ont tous signé pour la cessation des hostilités et nous ne croyons pas qu'ils doivent continuer à piller, à tuer et à kidnapper les gens.
Ces 10 ex-otages étaient tombés dans une embuscade des miliciens de la Codeco après un affrontement la semaine dernière avec des éléments du groupe armé Zaïre dans la région de Café sur le littoral du lac Albert. Bounia, Jean-Claude Loki, Guilé, Radio Kapi.
Pendant ce temps, au nord Kivu, des violents combats se poursuivent ce vendredi dans les environs de Bihambwe, dans le territoire de Masisi. Selon des sources locales, c'est depuis 3 jours que ces affrontements opposent dans la zone les rebelles du M23 à l'armée congolaise, soutenue par les combattants locaux. Et pendant ce temps, la situation reste tendue dans l'ouest du groupement Bachali Mokoto. C'est après des violents combats toute la journée d'hier jeudi entre les groupes armés locaux et les rebelles du M23 dans cette autre partie du territoire de Masisi. Le récit de Bernardin Nyangui.
Sur l'axe Biambwe, des combats se déroulent ce vendredi dans les villages Nyakajanga, Kagundu et Nteku, à moins de 5 km de Biambwe centre, en groupement Mufuni Matanda. Selon plusieurs sources, depuis 3 jours, les rebelles du M23 venus les uns de l'axe Nyamitaba et les autres de l'axe Mushaki attaquent des combattants locaux dans cette zone, probablement avec l'intention de conquérir la localité de Nyamirazo et l'agglomération de Biambwe. Pendant ces temps, un peu plus au nord, toute la journée d'hier jeudi, d'intenses combats ont été rapportés entre ces rebelles et les combattants du groupe des volontaires pour la défense de la patrie dans la zone de Mpati, où, dans la soirée, les M23 RDF auraient occupé le village de Kalengira et Kirumbu dans le groupement Bachali Mokoto. Que ce soit du côté de Biambwe ou celui de Bachali Mokoto, ces combats occasionnent des mouvements massifs des populations. Cette avancée des rebelles, selon nos sources, inquiète les habitants du secteur rural d'Osso, territoire de Masisi, qui reste encore sous contrôle du gouvernement. Goma, Bernardin Nyangui, Radio Okapi.
Retournons au Sud Kivu. 40 journalistes des radios communautaires de cette province ont été formés sur la désinformation et la mésinformation. La formation qui a commencé le mardi 19 mars s'est clôturée hier jeudi à la MONUSCO Bukavu. Cela dans le but de lutter contre les discours de haine, promouvoir les droits de l'homme et encourager les bonnes pratiques pour des informations justes et vérifiées. Rachel Kiesse pour le reportage.
La Radio Okapi et l'ambassade de la France s'engagent pour le renforcement opérationnel des radios communautaires. Et cette formation permet aux journalistes de contrer les informations erronées qui se distillent sur les réseaux sociaux en mettant sur la place publique la vraie information et vérifiée. Alice Wiragi, journaliste à Mama Radio.
La désinformation qui fait appel à toutes ces fausses informations avec souvent des mauvaises intentions d'influencer l'opinion publique. Et cette formation est très importante pour nous parce que souvent c'est auprès de nous journalistes que la communauté qui a tombé sur ces fausses informations cherche la vraie information.
Cette propagation des fausses informations est facilitée avec l'avènement des réseaux sociaux, ce qui justifie cette sensibilisation au discours de haine, mésinformation, désinformation et vérification des informations. Thérèse Kanko, coordonnatrice des radios communautaires à Radio Okapi.
Alors nous avons estimé que c'est nécessaire d'outiller les journalistes sur ces concepts qui sont d'actualité. Ils pourront relayer cette formation reçue auprès de leur communauté. Ils pourront avoir des outils pour bien traiter les informations déjà à la source.
Cette première phase sera suivie d'une autre dans les jours qui viennent. Bukavu, Rachel Kiesse, Radio Okapi.
Autre nouvelle, chaque année, nous perdons au moins 2500 hectares des forêts dans la province du Tanganyika. Ce sont les propos du chef de bureau à la coordination provinciale de l'environnement du Tanganyika. Il l'a dit hier à Kalemie. C'était à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la forêt. Il propose quelques alternatives face à ces énormes forêts qui sont détruites. André Matala, chef de bureau à la coordination provinciale de l'environnement du Tanganyika, est au micro de Paulin Munanga. Voilà, Dieudonné Nyanga, ça me fait signe que ce n'est pas encore prêt. Nous allons y revenir. En attendant, sachez qu'une nouvelle zone économique spéciale dans le périmètre de la ville de Kinshasa et s'appelle Kinmalebo. C'est dans la commune de Lancélé. Et selon le ministre de l'Industrie qui a donné ces détails hier jeudi en marge d'une visite d'inspection, cette zone est développée par l'entreprise Rise. Julien Paluku appelle les opérateurs économiques congolais à investir dans cet espace économique. On écoute le ministre de l'Industrie au micro de Paul Matendo Mayamba.
Ici, nous sommes sur 500 hectares que l'État a mis à la disposition de la société Arez pour y développer les activités industrielles. Il y aura 8 km de clôture dans cet espace. Il y a déjà 200 emplois directs qui sont créés, mais à l'horizon 2028-2030, nous aurons autour de 10 000 emplois ici dans la zone économique spéciale Kin-Malebo, dont 5 000 emplois directs, 5 000 emplois indirects. Je lance un appel à tous les investisseurs congolais pour leur dire, voici encore une nouvelle zone. Déjà, il y a 100 hectares qui sont discutés par des investisseurs, donc il reste 400. Avant que la zone ne construite, déjà 100 hectares sont pris par des investisseurs intéressés par la zone économique. Et donc, si les Congolais qui ont suffisamment d'argent ne se mobilisent pas à venir ici, eh bien, d'autres vont s'intéresser à notre zone. Et donc, au lieu d'immobiliser les fonds dans la construction des immeubles dont on a vu d'ailleurs les dégâts il y a quelques temps, voici là où on doit amener des investissements.
Retournons dans la province du Tanganyika. Je vous l'ai dit tantôt, chaque année, nous perdons au moins 2500 hectares des forêts dans cette province. Propos du chef de bureau à la coordination provinciale de l'environnement. Il l'a dit hier à Kalemi. C'était à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la forêt. Il propose quelques alternatives face à ces énormes forêts qui sont détruites. André Matala, chef de bureau à la coordination provinciale de l'environnement du Tanganyika, est au micro de Paulin Munanga.
Nous avons autant de forêts dans différents territoires de notre province du Tanganyika, entre autres dans les territoires de Kongolo, les territoires de Kabalo, les territoires de Manono. En fait, dans tous les territoires, nous avons autant de forêts. Par exemple, avec les statistiques, chaque année, nous perdons au moins 2503 hectares de forêts qui disparaissent. Ici, chez nous, au Tanganyika, il y a autant d'alternatives que nous avons proposées. C'est entre autres, nous allons sensibiliser la population à l'utilisation des foyers améliorés. Vous voyez, ces foyers améliorés-là sont des foyers qui consomment peu de braise. Quand ça consomme peu de braise, là, vous compensez au moins la forêt et vous diminuez la pression humaine sur la forêt parce que l'homme dépend de la forêt. La deuxième alternative, c'est de faire une reconstitution du couvert végétal, procéder à un reboisement à grande échelle. Nécessairement, nous devons le faire. Pour compenser avec la forêt perdue, nous devons quand même faire un reboisement. S'il n'y a pas de compensation avec les forêts détruites, dans quelques années, on ne parlera plus des forêts au Tanganyika.
Dans l'actualité aussi, notez que la Régie des eaux, Régie des distributions d'eau, dénonce l'occupation anarchique de certains de ses sites dans la capitale congolaise et dans d'autres provinces. Le directeur général de cette entreprise de l'État l'a fait savoir au cours d'un point de presse et d'une visite guidée organisée hier dans ses installations à Kinshasa. Selon David Chilumba, la Régie des eaux a besoin de l'intervention du gouvernement pour sécuriser intégralement ses concessions destinées à l'extension de ses activités à travers le pays. Le directeur général de la Régie des eaux fait cette déclaration, David Chilumba, au micro de Tati Mapoukou.
Dans certains coins, on donne des parcelles frauduleusement, là où la Régie des eaux a déjà des titres fonciers. Dans d'autres, les gens viennent, ils envahissent. Ils avaient une propriété à côté de la Régie des eaux et progressivement, ils suivent. Je crois que c'est un problème qui a été négligé pendant très longtemps. Nous avons mis un programme pour sécuriser les concessions de la Régie des eaux. Il faut les clôturer avec des infrastructures dures. Le ministère des Ressources hydrauliques et d'électricité nous aide d'ailleurs à ce point. Nous avons besoin de l'État congolais pour honorer ses engagements vis-à-vis de la Régie des eaux, pour nous donner les moyens de sécuriser toutes ces entités. Pour le cas de Maluku, là où nous prenons la masse filtrante, il y a eu beaucoup de procès en justice, comme vous le savez. La Régie des eaux a eu gain de cause. Donc aujourd'hui, nous ne nous inquiétons pas de ce captage parce que ça appartient à la Régie des eaux. Tout celui qui pense que ça lui appartient, il peut encore aller en justice. Mais nous avons cette carrière depuis l'année 1972. Les individus ne peuvent pas venir aujourd'hui pour dire que ça leur appartient avec des titres qui ont apparu en 2011, 2007, 2008.
Actualité internationale. Au Niger, 23 militaires nigériens ont péri dans une embuscade tendue par des terroristes. C'était lors d'une opération de ratissage de l'armée. L'attaque a eu lieu dans la région de Tillaberi, située dans la zone dite des trois frontières entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso, zone connue pour être un repère des djihadistes sahéliens. Guerre à Gaza. Le Conseil de sécurité des Nations Unies doit voter ce vendredi 22 mars une résolution appelant à un cessez-le-feu dans la guerre à Gaza. Les précédentes résolutions du même type ont toutes été rejetées en raison du veto américain. Mais cette fois, le texte est proposé par les États-Unis et c'est un changement particulièrement notable.
L'invité.
Nous recevons ce midi Clovis Mounire. Il est coordonnateur provincial du programme PDDRCS. Il nous parle des deux projets financés par le Fonds de cohérence pour la stabilisation qui sont déjà en cours pour accompagner la réinsertion qui devrait impliquer plus de 1500 ex-combattants venus des territoires de Beni et Lubero. Nous sommes au Nord Kivu. Clovis Mounire et s'entretient avec Bernardin Nyangui.
Monsieur Clovis Mounire, bonjour.
Bonjour.
Et aujourd'hui, vous êtes venu y coordonner une opération d'évacuer de Goma vers Beni à 70 ex-combattants, parmi lesquels il y a bien sûr quelques dépendants de ces ex-combattants. C'est par rapport à quel programme exactement?
Aujourd'hui, nous sommes en train de réaliser notre rêve. Vous vous souvenez que ces ex-combattants avaient fait 5 ans dans le site de Mbambiro. C'était depuis 2018 qu'ils étaient là. Il y a de cela une année qu'on a fermé le site compte tenu de la situation de sécurité que tout le monde connaît. C'était sur décision de la haute hiérarchie, donc le gouvernement provincial, la coordination nationale du PDDRCS et les autorités au niveau de Kinshasa. Mubambiro et la ville étaient sous menace d'M23 et nous avions décidé de fermer le site et ramener ces ex-combattants dans leur milieu d'origine. Malheureusement, au moment où on a fermé le site, la route Goma-Routchour était déjà fermée, la route Goma-Massis était déjà fermée et le seul issu c'était de les mettre dans le site de déplacés parce que leur communauté était déjà dans le site de déplacés environnant de la ville de Goma. Ils ont choisi de rejoindre le leur dans les sites de déplacés. Et d'ailleurs, je félicite d'abord la coordination provinciale, mes collègues, qui ont eu à travailler pour qu'il n'y ait pas de bavures. Et effectivement, ces ex-combattants, ils étaient au nombre de 1500 ex-combattants. On n'a jamais enregistré quelconque problème ou bien des plaintes de la part des services de sécurité en disant que non, les ex-combattants ont fait ça, ça, ça. Non, parce que c'est tout qu'ils détiennent des cartes, nos cartes démobilisées. Et aujourd'hui, parmi ces gens-là, il y a presque 200 ex-combattants des 101 qui avaient identifié comme leur zone de retour Beni et Lubero. Alors, on a eu à négocier avec les fonds de cohérence, MONUSCO, comme il y avait déjà un projet en cours dans la zone, parce que moi j'avais priorisé les ex-combattants de Mbambiro et leur zone de retour, une grande partie c'était dans les Massissi et Walikale. J'ai eu à négocier avec les partenaires pour délocaliser les projets. Surtout que Massissi, il y a encore un souci sécuritaire. Parmi ces gens-là, une grande partie sera prise en charge par le projet OIM, qui était au départ destiné à réinsérer les ex-combattants qui avaient choisi les zones de retour Massissi et Walikale et Rutshuru, une partie de Rutshuru. Et ceux qui vont partir à Lubero, ils seront pris en charge automatiquement par le projet Mudamani, piloté par ex-EPR. Donc, moi, je suis très heureux parce que démobiliser, sensibiliser les combattants et les démobiliser, oui, ça, c'est une phase très importante. Mais ce qui est compliqué, difficile, c'est leur réinsertion.
Donc, c'est combien, en fait, au total, qui devraient être concernés par ce processus de réinsertion communautaire?
Non, non, c'est tous. Sauf que ce n'est pas tout ce monde-là qui était venu de Beni Lubero. Ici, nous parlons des ex-combattants qui ont comme origine Beni Lubero. Donc on les ramène dans leur communauté d'origine. Surtout que là, on a eu à impliquer les communautés dans le processus. Mais ces projets-là, ex-EPR, Mudamani et les projets OIM ne concernent pas uniquement les ex-combattants. Ça concerne aussi les communautés. Il y a les jeunes à risque, les filles à risque qu'on va impliquer, qu'on va incorporer dans les projets. Donc il y aura un quota pour les communautés, un quota pour les ex-combattants.
Là, ce qui est prévu, est-ce qu'il y aura des projets de type qui peut leur apporter un moyen suffisant pour leur insertion?
Effectivement, ce sont des projets socio-économiques. Nous voulons voir et accompagner ces amis ici pour qu'ils soient réinsérés et que leur situation économique s'améliore. Nous devons les accompagner pour qu'ils ne reviennent plus en arrière et reprendre, se faire recruter. Et je dois vous dire la vérité, ces amis ici, ils n'ont plus besoin de prendre les armes. S'ils avaient cette envie-là, ils allaient être aussi avec les Wazalendo. Donc là, ils rentrent chez eux, ils seront accompagnés même pendant une année, deux ans. C'est vrai, le projet qui est déjà en cours d'ailleurs, prendra peut-être 3, 5 à 6 mois. Mais nous sommes en train de faire un plaidoyer qui est maintenant un projet à long terme. Donc que ça soit vraiment une véritable intégration. Depuis qu'on a commencé, on a mis en place ce programme PDDRCS. Dynamique est venue de plusieurs acteurs, notamment la MONUSCO. Surtout la section DDR, c'est parmi nos partenaires privilégiés. Et je crois qu'avec ce mariage, on va faire de grandes choses. Le défi est encore là, nous avons un défi énorme, mais nous devons le relever. Dit-on, l'union fait la force.
Monsieur Clovis, on y remercie.
Je vous remercie aussi.
Le coordonnateur provincial du programme PDDRCS au Nord Kivu répondait aux questions de Bernardin Nyangui. Ainsi prend fin ce journal coordonné par Jacques-Yves Molima. Dieudonné Nyangassa à la mise en onde. Merci d'avoir été des nôtres.